Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou aussi en podcast sur www.awr.org ou aussi avec votre téléphone, et d'ailleurs je vous donnerai les numéros un peu plus tard. Aujourd'hui au programme, eh bien, Parole solidaire, un moment d'information humanitaire, et ensuite, pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans les bureaux d'ADRA Belgium avec Zoé Nolis. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication chez ADRA Belgium. Alors donc, je rappelle que c'est l'agence de développement et de secours adventiste en Belgique. Et aujourd'hui, eh bien, vous nous emmenez dans le sud, en Afrique, et plus précisément en Ouganda. Alors pourquoi en Ouganda, Zoé ?
Voilà, donc ici, en fait, en Ouganda, ADRA Belgium, depuis 2024, soutient un projet de construction de logements pour les familles réfugiées. Donc, il faut savoir que l'Ouganda, c'est un des pays d'Afrique, c'est le pays d'Afrique d'ailleurs, qui accueille le plus de réfugiés.
Ah oui, et pour quelle raison ?
Donc, la raison, c'est qu'ils ont une politique d'accueil qui est très progressiste. Donc, ils permettent aux familles réfugiées de bénéficier, déjà, ils garantissent la liberté de circulation, le droit à l'emploi, le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit à la création d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'une famille qui arrive, qui se réfugie en Ouganda, a déjà beaucoup plus de droits que peut-être dans d'autres pays voisins.
Donc, c'est très facile pour un immigré de s'établir, de faire vivre sa famille, de trouver du travail.
Voilà, exactement. Et ils ont aussi, donc, le gouvernement ougandais offre aux réfugiés la possibilité d'avoir accès à une parcelle de terre afin qu'ils puissent cultiver et construire un logement dessus.
Donc on leur offre aussi une parcelle de terre.
Tout à fait.
Formidable.
Oui, tout à fait. Donc ici, en fait, l'Ouganda accueille plus de 1 600 000 réfugiés sur une population totale de 50 millions d'habitants. Et donc le pays est loué pour sa politique d'accueil. Mais malheureusement, le flux croissant et constant de réfugiés, forcément, entraîne un manque de ressources et un manque d'espace pour le logement et pour l'agriculture.
Alors, on va revenir là-dessus, Zoé. Vous pouvez nous rappeler où se trouve l'Ouganda sur le continent africain ?
Les pays voisins de l'Ouganda, c'est la République démocratique du Congo ainsi que le Sud-Soudan. Donc, c'est les deux pays dont les réfugiés viennent le plus souvent
donc,
en Ouganda.
Ils viennent essentiellement de là, les réfugiés,
oui.
Alors, de ces deux pays-là.
Tout à fait, puisque ce sont des pays dans lesquels il y a énormément de conflits, de guerres. Et donc, du coup, forcément, les gens fuient leur pays d'origine et trouvent souvent refuge en Ouganda.
Alors Zoé, vous nous disiez qu'effectivement, tout cet afflux de réfugiés, c'est une formidable occasion pour certaines personnes de se reconstruire ailleurs. Cependant, évidemment, le pays lui-même, l'Ouganda, ça lui occasionne quelques difficultés.
Voilà, exactement. Donc en fait, dans les camps, donc nous on travaille dans un camp de réfugiés qui s'appelle le camp de Kiaka. Et il y a énormément de familles réfugiées qui arrivent là et qui survivent dans des abris de fortune.
Oui.
Donc, ils sont recouverts d'herbe ou de bâches car les différents membres du ménage n'ont pas la possibilité ou ne maîtrisent pas les techniques pour construire un logement. L'accès également aux infrastructures sanitaires est extrêmement limité. Donc, ça entraîne un manque d'intimité et d'hygiène, surtout pour les femmes et pour les filles. Et tous ces facteurs, évidemment, ont un impact négatif sur la sécurité alimentaire et sur les moyens de subsistance et augmentent évidemment la dépendance des familles à l'aide humanitaire. Donc, ils n'ont pas la possibilité de subvenir à leurs propres besoins. Donc, ils sont entièrement dépendants de l'aide humanitaire. Ce qui veut dire que si l'aide humanitaire s'arrête pour une raison X ou Y, ces gens n'ont plus de quoi se nourrir et de quoi subvenir à leurs besoins.
Et alors là, j'ai le sentiment, Zoé, que vous allez nous dire que c'est ici qu'ADRA intervient, c'est à ce moment-là.
Tout à fait. Donc en 2024, notre bureau ADRA Belgium a décidé d'unir ses forces avec ADRA Danemark dans un projet de construction de maisons pour 100 familles réfugiées dans le camp de Kiaka. Donc l'idée, c'est d'offrir à 100 familles un logement, une maison, un espace pour pouvoir construire des latrines et des sanitaires, et un espace pour cultiver un jardin potager ou un verger. Donc bah, évidemment, fournir une maison à une famille qui a dû fuir son chez-soi et son pays, bah, déjà, c'est un synonyme d'espoir pour les familles. Et c'est aussi, ça protège les familles, que ce soit contre les conditions climatiques et contre de nombreux abus aussi. Elle peut mettre ses possessions, le peu de choses qu'ils ont amené avec eux, en sécurité. Donc, c'est vraiment le but de ce projet, c'est de fournir aux familles les plus vulnérables un logement ainsi qu'une parcelle de terrain pour pouvoir cultiver et éventuellement mettre en place, subvenir à ses propres besoins et peut-être cultiver pour mettre en place des opportunités de revenus dans le futur.
100 maisons, vous nous dites ?
Oui, tout à fait.
Juste pour 2024 ?
Pour 2024, tout à fait.
C'est énorme, 100 maisons.
Oui, c'est déjà un grand nombre de maisons. Mais donc le projet ici, il a débuté en 2006.
Alors oui, c'est un projet qui remonte déjà depuis un certain temps.
C'est un projet qui, depuis 2006, donc il y a plus de 10 000 familles, 10 500 familles qui ont bénéficié d'un logement.
10 500 maisons, vous voulez dire ?
Oui, tout à fait. 10 500 maisons pour 10 500 familles.
Depuis 2006, et ça c'est soutenu par ADRA depuis 2006 ?
C'est soutenu par ADRA, donc ADRA Danemark qui est le porteur du projet, oui. Et différents bureaux ADRA soutiennent les différentes phases du projet. Donc ici, nous, on soutient la troisième phase du projet, mais je sais que d'autres bureaux, comme par exemple la Suède, ont déjà soutenu des phases précédentes.
Comment est-ce qu'on fait pour construire autant de maisons en une année et comment est-ce qu'on trouve l'argent, Zoé, pour construire toutes ces maisons ?
Mais donc ici, comment est-ce qu'on trouve l'argent ? Tout dépend. Nous, à notre niveau, à ADRA Belgium, on fait de la recherche de fonds, que ce soit au niveau des différentes institutions belges. On propose aussi, évidemment, à nos donateurs de faire un don pour ce projet-là plus spécifiquement.
Donc ça veut dire que les gens qui nous écoutent là en ce moment peuvent faire un don,
oui,
pour financer toute ou partie de ces maisons.
Exactement, donc on a déjà eu différents groupes de volontaires en Belgique qui organisent par exemple un souper ou un événement au profit de ce projet et qui ont récolté, donc on a l'église de Namur ici en Belgique qui nous a contactés pour mettre en place un souper.
Une église a organisé un souper dans sa commune.
Voilà.
Pour collecter des fonds.
Exactement, et ils ont récolté de quoi construire une demi-maison.
D'accord.
Donc c'est quand même conséquent. Et donc les personnes qui nous écoutent et qui veulent soutenir ce projet, il y a différents moyens de le faire. Donc, ils peuvent soit se rendre sur notre site web, adra.be.
Oui.
Sinon, on propose aussi chaque année, depuis quelques années, un gift catalogue. Donc, qu'est-ce que c'est un gift catalogue ? C'est vraiment un document où on propose à notre donateur d'offrir quelque chose de concret. Donc, on présente nos projets de développement et les situations d'urgence sur lesquelles on est actif. Et on propose aux donateurs d'offrir vraiment un objet concret, que ce soit du matériel scolaire ou du matériel informatique pour un projet en Somalie, que ce soit un kit de riziculture pour une famille au Congo, ou ici, par exemple, on propose d'offrir la moitié d'une maison pour une famille réfugiée en Ouganda.
Et ça, on le trouve aussi dans le gift catalogue ?
Tout à fait.
Une demi-maison ?
Oui, tout à fait. Donc, il est repris vraiment comme ça, une demi-maison pour une famille vulnérable en Ouganda. Et donc ça, tout est repris sur notre site web. Il y a une partie gift catalogue sur la page d'accueil de notre site web où vous pouvez retrouver tous les détails. Et il y en a on essaye vraiment de proposer différents items pour tous les budgets. Donc on se rend bien compte que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Donc on essaye vraiment de proposer différentes choses avec différents budgets pour que tout le monde puisse y trouver son compte.
Voilà, donc Zoé Nolis, vous venez de nous parler de ce projet de 100 maisons à construire en Ouganda pour les réfugiés. Eh bien donc, on se sent interpellé, on est sensibilisé par ce sujet. Je trouve ça assez formidable, ce que vous faites là-bas sur le terrain. C'était Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Zoé Nolis, chargée de communication chez ADRA Belgium. Et vous nous avez rappelé qu'il existe des projets efficaces pour pas cher du tout. Alors, vous nous avez pas dit le prix d'ailleurs.
Alors, le prix pour l'achat d'une maison, c'est un petit peu plus que 1700 euros.
Oui, donc, c'est vraiment pas cher pour une maison.
Pour une maison, c'est vraiment pas cher, tout à fait. Et puis, ça peut faire toute la différence pour une famille.
Rassurez-nous, c'est solide.
Oui, tout à fait. Ça protège, en effet, de la saison des pluies, des chaleurs qui sont assez, assez agressives en Ouganda. Donc.
Merci beaucoup, Zoé.
Merci
à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Hablando del amor, del mundo y del dolor, yo miro al cielo y pienso en ti. Seguro que tú estás formando desde allá un mundo nuevo para mí. Sueño un cariño limpio y natural, un cielo abierto para pensarte sin fingir, saber que tú eres mi Dios. Seguirte a donde vas, estar donde tú estás, vivir tan solo por tu amor. Estoy pensada solo para ti, desde el momento mismo que nací. Cierro los ojos y me siento bien con tu luz de sol en mi ser, un lugar celestial, nuestro cielo pequeñito, sobrenatural, un lugar celestial, justo lo que necesito.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, AWR, et ici c'est la Voix de l'Espérance en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez rentrer en contact avec nos intervenants et leur adresser des questions. Pour cela, vous pouvez adresser vos mails à france@awr.org. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans l'émission « C'est vous l'histoire ».
C'est vous l'histoire.
C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
J'ai vraiment senti que je devais témoigner. Je me suis dit, tiens, je vais écrire un livre. Et là, je me suis rendu compte que je ne savais pas m'expliquer à moi-même ce qui s'était passé. Quels enjeux, ça... ouais, qu'est-ce qui se passe en nous? Parce que tout ça, c'est invisible, c'est ce qui se passe en nous. Alors comment on parle de l'invisible à quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de ça? C'est ça le défi. Là, je me suis dit, eh ben, tiens, si tu arrives à leur donner le goût que quand ils ont fini ton livre, ils se disent « Ah, mais peut-être qu'il y a quelque chose, une relation plus profonde qu'on peut vivre avec Dieu. » Et bien là, ça sera gagné, quoi.
Bonjour, aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, on se lance et on ose, comme Jeff Roux, notre invité, oser le pas de foi, témoigner autour de lui à sa famille et à ses amis, oser écrire un livre, c'est pas évident. Première rencontre avec celui qu'il ne voulait pas encore nommer, tant il en avait contre son église. Notre invité a donc passé un premier cap et bien des choses ont changé dans sa vie, en mieux. Mais il avait encore un compte à régler avec Jésus, nous l'écoutons au micro de François Sergi.
Ben, tout d'un coup, je me suis rendu compte à quel point la vie c'était un don et puis pas un dû. J'ai ressenti que c'était bon de vivre sans courir toute la journée, ouais. Il y a plein de choses qui se sont simplifiées. J'ai plus besoin de regarder la télé, j'avais plus le besoin. J'ai plus besoin de boire parce que j'avais ressenti plus besoin. Et puis j'ai commencé à trouver des hobbies que j'avais pas du tout avant. Marcher, en montagne.
Le jardinage.
Le jardinage, ouais. Et ça, c'est tout d'un coup, j'ai pris conscience à quel point la vie, elle pouvait être simple. On prend une petite graine, on la plante, on l'arrose, ça pousse. C'est tout simple, hein, au fond. Ouais, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien.
Alors, il y a quand même deux choses qui ont été difficiles.
Oui, ouais, deux choses, ouais. Quand j'ai arrêté de boire, la première chose qui a été difficile, c'était un peu mes amis avec lesquels je faisais la fête. Du jour au lendemain, j'ai plus eu aucun coup de fil de leur part. De prendre conscience que c'était simplement des amis, des bonnes connaissances avec lesquelles on faisait la fête, puis pas des amis un peu plus...
C'était pas des vrais amis, en fait.
Ah, mais c'était des copains, des copains. Donc moi, je leur en veux pas. J'aurais peut-être sûrement fait la même chose.
La place de l'alcool, quand même, dans les relations.
Voilà, ouais.
Ça. Vous êtes vigneron, c'est ça?
Oui, j'ai fait 2 ans de vigne, en fait.
Ça peut être aussi un piège.
Mais ça peut être un piège, oui. Le vin, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et puis, il y a une limite entre ça qu'il faut pas franchir. Et puis, ce qui est dur avec l'alcool, c'est qu'on sent pas que cette limite, elle arrive. On se rend pas compte.
Donc, vous avez perdu des amis à cause du fait que vous vouliez plus boire
Que j'arrête de boire, ça les a remis en question. Du coup, pendant un petit moment, c'était un peu plus dur avec eux. Surtout que le fait que je parle de religion et ça, que c'est bien plus dur parce que c'est un sujet tabou. Là, ils ont pensé, ouais, il a pété une case, quoi. Il s'est fait avoir par une secte ou j'en sais rien. Puis ça, on peut comprendre, voilà.
C'est quoi l'autre chose difficile?
C'était justement de parler de cette expérience que j'avais vécue. Oui.
Et ça, votre famille a eu du mal à comprendre ça?
Ils n'ont pas eu du mal à comprendre. Je dirais pas qu'ils n'ont pas eu du mal, mais ils sont peut-être pas rendus compte à quel point c'était profond, ce bouleversement. Donc les premiers jours, quand je suis revenu de ce camp, et puis que j'ai expliqué ce qui s'était passé dans mon cœur, ils ont plutôt rigolé. Mon père, il a singé un méditant, un petit bruit, comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas été plus profond dans la discussion. Pour discuter, il faut toujours être deux. Puis là, je me suis rendu compte que c'était une chose d'avoir vécu quelque chose de fort, puis une autre chose d'en parler.
Alors, le conflit avec Jésus, comment vous l'avez résolu, hein? Votre question, c'était de savoir si Jésus était un imposteur ou pas. Dites-nous comment ça s'est passé.
La première étape, ça a été je me suis dit, je vais aller lire les évangiles. Et puis, je me suis vraiment dit, dès qu'il y a quelque chose que je vais trouver nul, je vais pouvoir tracer cette hypothèse et puis jeter loin la Bible. Et puis, j'ai ouvert les évangiles, j'ai commencé à lire. Là, je me disais, mais au fond, c'est ça que je vais écrire dans mon livre. C'est ça que je vais expliquer. Que Dieu, il est ici et maintenant, que c'est une relation. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et là, j'ai passé 2-3 semaines à lire ces évangiles. Et ça, c'était un peu le premier round, comme ça. Là, c'est mon cœur qui a gagné. Mais ma tête, elle voulait toujours pas. Elle disait, non, là, maintenant, t'as fait des méditations, tu t'es rendu compte que par toi-même, tu pouvais découvrir la vérité. T'as pas besoin ni de l'église, ni de Jésus, ni de rien.
La crucifixion, la croix, comment vous l'avez, en lisant ça dans les évangiles, comment est-ce que vous l'avez reçu?
Et ben ça, c'était un deuxième déclic. Il y avait quelque chose qui était fantastique, c'était le parallélisme qu'il y avait entre la vie de Jésus et puis l'amour qu'il y avait dans mon cœur. C'est-à-dire que Jésus, on l'a aimé, après on l'a tué, puis il est ressuscité. Et moi, c'était pareil, dans mon cœur, j'avais aimé Jésus, j'avais l'amour. Après, je l'ai tué, je l'ai oublié. Et là, il ressuscitait, quoi. Et je me sentais remis debout. Et ça, c'est la résurrection. C'est quand on est refait, on est recréé. Tout d'un coup, on est comme, de nouveau comme un enfant. On n'a plus tous ses soucis, plus rien. Ça, c'est incroyable. Ma tête, elle s'est fait avoir là, sur ce coup-là. Et là, je me suis dit, non, mais t'es trop bête. Tu crèves d'envie d'aimer Jésus et puis tu fais l'imbécile pour pas le suivre, quoi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si ma tête, elle voulait pas que je suive Jésus, c'était parce qu'elle voulait être forte, toute seule. Et là, je me suis rendu compte que non, on était faible, on avait des faiblesses. On tombait malade, il y avait des choses qui se passaient pas bien. Toute la vie, elle a des hauts, des bas. Et si j'acceptais d'être faible, d'être un homme, que je permettais à Jésus d'être à sa place, eh ben tout ça, ça se transformait en moi. C'est aussi de nouveau la résurrection, c'est aussi la croix. Jésus, il accepte d'être faible sur la croix, d'ouvrir ses mains, puis de donner.
Et il ressuscite.
Et ressuscite, ouais. Je me suis rendu compte que non, c'était pas honteux d'être faible.
Oui,
que c'était vraiment notre force.
Jésus.
Oui. Et oui, je l'aime, quoi. Et oui, il m'aime. C'est aussi fort, ça. Et puis, c'est vrai que, d'une fois qu'on suit Jésus, c'est quand même exigeant. Ça veut dire que...
Est-ce que ça veut dire que Jésus est dans nos emmerdes? Il vient nous aider dans nos emmerdes?
Ouais, alors il y a ça.
Il y a de ça.
Mm. Mais aussi, Jésus, il nous laisse pas...
Il nous crée des...
Il nous crée pas des emmerdes.
Non.
Il nous révèle, il nous met en lumière ce qui va pas dans notre vie. Et puis, il nous dit, si tu veux, tu peux changer. Alors après, c'est toujours à nous à faire le pas.
Oui.
Dire, tu peux rester dans ton canapé, regarder la télé, mais si tu veux, tu peux éteindre ton canapé, puis aller sonner chez ton voisin, puis...
Alors, on va terminer par une dernière anecdote qui parle de merde. Vous êtes parti en Inde...
À Calcutta.
À Calcutta, dans la maison de Mère Teresa.
Voilà.
Et vous parlez d'une expérience difficile.
Voilà, ouais. Ça, j'ai mis ça à la fin du livre, c'est pour montrer à quel point Jésus, il transforme notre vie. Alors, il y avait dans ce centre à Calcutta une personne d'une cinquantaine d'années, aveugle, et qui avait un peu des démences, qu'on mettait sur un petit muret puis qu'on laissait là toute la journée. Alors, cette personne s'agitait dans tous les sens, et puis il faisait ses besoins tous les jours sur lui. Et donc, sa merde coulait le long de ses jambes, et puisqu'il bougeait dans tous les sens, il en prenait avec ses mains, se frottait le visage, les cheveux, et pour finir, il était couvert de merde de haut en bas. Et moi, je le voyais sur le chemin qui menait à la pause, et je disais, mais Jésus, moi, je peux aller aider les Kudjats, les mourants, tout ce que tu veux, mais lui, j'ai pas la force. S'il est encore là, après la pause, j'irai l'aider. Et puis je priais toute la pause pour qu'il y ait quelqu'un qui aille avant moi, quoi. Et à la fin des pauses, il était toujours... Quelqu'un l'avait pris en charge. Mais le soir, en pensant à lui, je me disais, mais si c'était toi qui étais dans ta propre merde, et puis qu'il y a quelqu'un qui disait, attends, je vais prendre la pause, puis peut-être c'est la personne qui t'a pris en charge, je t'aiderai après. Mais moi, je préférais mourir que d'entendre ça. Et là, je me suis dit, mais si t'aides pas cette personne, c'est comme si tu l'as tué, quoi. C'est comme si tu te tuais toi-même aussi. Alors là, j'ai vraiment beaucoup prié. Et un jour, après la pause, j'étais toujours là. Et j'ai dit à Jésus, « Jésus, moi, je suis incapable de faire quelque chose. Mais si toi, tu peux à travers moi, alors vas-y, fais-le. » Et puis là, sans réfléchir, j'ai cherché une chaise roulante, je l'ai mis dessus, je l'ai amené prendre une douche. Et tout en faisant ça, je sentais mon cœur s'ouvrir, comme s'il y avait des bidons d'amour qui tombaient du ciel et qui remplissaient mon cœur. Et là, je me suis rendu compte à quel point Jésus, ça pouvait être notre force. À quel point ça rendait heureux. Il nous permet de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes.
Merci Jeff Roux pour ce partage.
Merci à vous.
Des emmerdes, tout le monde en a. Des amis, mais des vrais. Vous savez, celles ou ceux sur qui on peut compter, fidèles, qui nous écoutent, mais vous font aussi confiance et vous demandent des services. Vous en connaissez beaucoup, vous ? Jésus est de ceux-là et Jeff Roux l'a rencontré et retrouvé. Pour en savoir plus, lisez « Jésus, mon ami, mes emmerdes » paru aux éditions Saint-Augustin. Allez, je vous laisse, au revoir et à bientôt dans « C'est vous l'histoire », une émission signée Radio Réveil. Ciao.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Alors, si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, Retrouvez-nous sur www.awr.org pour la réécoute des podcasts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Si vous voulez le faire depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous voulez le faire depuis les États-Unis, eh bien il y a un numéro spécial qui est le 1 712 432 9978. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste AWR pour votre émission en français La Voix de l'Espérance, et vous étiez pour cela en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Prenez bien soin de vous.